Partie 15 Principes. Il a dit, la lumière, ou la loi, comme il l'appelle, convaincra un homme de péché, et le laissera là sans excuse devant Dieu. Réponse. Christ est la fin de la loi en vue de la justice, pour quiconque croit en la lumière, et vient ainsi à rendre témoignage à la loi de la foi et de la vie. L'espérance et la promesse de cela font passer de dessous le pédagogue à la filiation, et à connaître et voir le salut, ce que nul ne fait sinon avec la lumière. Principe. Il a dit, ce passage de l'Écriture dans Jean est mal appliqué, celui qui dit que Christ éclaire tout homme venant dans le monde. Et il a dit, cela Jean 1, 9 ne s'applique qu'aux enfants de la Nouvelle Alliance. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Jean n'était pas la lumière, mais il rendait témoignage à la lumière Christ. Laquelle est la vraie lumière, qui éclaire tout homme venant dans le monde? Jean 1, 8, 9 ainsi, voici un érudit biblique qui choisit d'ignorer toute écriture qui ne s'accorde pas avec son opinion ou avec ce qu'on lui a appris à penser. Toutes les écritures sont compatibles. Si vous pensez que l'une est fausse, c'est que vous ne comprenez pas celle que vous croyez comprendre. Réponse, ceci est contraire à l'écriture, qui dit que l'un aime la lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde, et que l'autre est la lumière. Celui qui est la lumière est condamné par la lumière, ainsi, celui qui est hors de l'Alliance a aussi la lumière, mais pour les enfants de l'Alliance, croire et suivre la lumière, c'est avoir la lumière de la vie. Et il est une alliance, une lumière pour les gentils et pour les juifs, qu'ils la reconnaissent, qu'ils y croient, qu'ils la reçoivent ou non, il l'est néanmoins selon la promesse de Dieu. Et pour tout homme qui y croit, elle est l'alliance de lumière, et il n'aura pas besoin de dire « Connais le Seigneur, car il trouvera la loi dans son esprit, et la loi dans son cœur. » Et les saints ont rendu témoignage à la lumière brillant dans leur cœur, et cela leur a donné la connaissance de la gloire de Dieu, et ils sont passés de la mort à la vie, et des ténèbres à la lumière, et l'incrédule demeure dans les ténèbres et dans la mort, et la lumière brille dans les ténèbres ne la comprennent pas, et vous voilà, et de tels ne savent rien comme ils devraient savoir, mais naturellement, comme des bêtes brutes. Principe, il a dit, la lumière en tout homme venant dans le monde n'ouvrira pas toute l'écriture, ni ne conduira les hommes hors de la chute à Dieu le Père, et à la vie éternelle. Réponse. La lumière, qui éclaire tout homme venant dans le monde, est la substance de toutes les écritures, et le chemin hors de la chute vers la vie éternelle, hors du premier Adam, et c'est la vie qui ouvre toutes les écritures, et en laquelle toutes les écritures aboutissent. L'homme étant dans la chute, dans le premier Adam chassé de Dieu, dans le péché et la transgression, Christ le second Adam, qui éclaire tout homme venant dans le monde, lequel est de nouveau le chemin vers Dieu, est celui qui introduit la justice, la vie et l'immortalité, et met fin au péché et à la transgression, et met fin aux prophètes, types, figures et ombres, et ouvre toutes les écritures. Principe, il a dit, la lumière précipite les hommes dans la tombe, et roule une pierre sur eux, et les précipite dans la transgression, et il agira contre les oints de Dieu, et contre le Seigneur. Réponse. Non, la lumière conduit les hommes hors de la transgression, et hors de leur sang où ils se vautrent, et c'est par elle qu'ils ont la vie, et elle les conduit hors de la tombe, et de dessous leur cœur de pierre et leur rocher, par quoi la nouvelle alliance de lumière est connue, et le nouveau cœur qui est pur, avec lequel Dieu est vu. La lumière, dont tout homme venant dans le monde est éclairé, piquera ceux qui persécutent les oints, et agissent contre le Seigneur, même s'ils regimbent contre elle. Or, comme il seul, plus tard nommé Paul approchait de Damas au cours de son voyage, soudain une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Et il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes, il t'est dur de continuer à regimber contre les aiguillons de ta conscience qui cherchent à t'avertir d'arrêter tes persécutions meurtrières. » Acte 9, 1, 5 remarqué, premièrement, Saul n'était pas un enfant de la Nouvelle Alliance et pourtant la lumière, Christ, lui apparut avec la lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Mais cette lumière brille, dans un lieu sombre, jusqu'à ce que Dieu la fasse briller pour donner la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Jésus-Christ. Deuxièmement, Jésus dit que Saul le persécutait Jésus, pas seulement ses disciples, mais Jésus, prouvant qu'un vrai disciple de Christ entre finalement en union avec Christ pour ne faire qu'un avec lui et devenir une partie de son corps, un seul cœur, une seule foi, une seule bouche, un seul esprit, un seul corps. Principe, il a dit, à quoi bon prêcher Christ mort et ressuscité, à croire pour la vie, si la lumière est en chacun? Réponse, l'humanité étant dans la chute, Christ fut manifesté pour rendre témoignage qu'il devait venir, et manifesté à de nombreux témoins quand il fut venu, et j'en vins rendre témoignage à la vraie lumière, qui éclaire tout homme venant dans le monde. Puis ces témoins qui croyaient que Christ était venu devaient aller dans le monde entier, à toutes les nations juives et gentilles, et leur prêcher l'alliance éternelle de Dieu qui avait été promise, et ils étaient témoins de sa résurrection, et pour tourner les gens des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, puis leur dire que la lumière qui avait brillé dans leur cœur leur donnerait la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu. Et la loi était dans leur cœur, et la parole en eux, et l'onction, et de tels avaient les dons pour l'œuvre du ministère, pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce qu'ils parviennent tous à la connaissance de la gloire de Dieu, et à un homme parfait en Christ Jésus. Principe, il a dit, Christ est au-dehors de ses saints quant à sa présence corporelle. Réponse, comment donc sont-ils de sa chair et de ses os, et mangent-ils sa chair, et boivent-ils son sang, et comment les saints ont-ils sa pensée et son esprit, et lui avec eux, et eux avec lui, et siègent-ils avec lui dans les lieux célestes? Et puisqu'il est la tête de l'Église, comment donc est-il absent, pauvres apostats éloignés de lui, qui ne sentez pas Christ avec vous, mais il est au-dedans des saints, et ils le sentent. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs, criant « Abba Père », Galates 4, 6, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Éphésiens 3, 17, ne savez-vous pas que vous êtes vous-même le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous, 1 Cor 3, 16, j'habiterai en eux, et je marcherai en eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 2 Cor 6, 16, Lévitique 26, 12, vous, au contraire, vous n'êtes pas sous l'emprise de la nature pécheresse, mais de l'Esprit, si l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Rome 8, 9, mes chers enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Galates 4, 19, principe. Il a dit, le salut et la foi sont des dons de Dieu distincts de Christ. Réponse. Tout est de lui, et vient de lui, et est avec lui. Et si la foi ne vient pas de Christ, comment est-il l'auteur de la foi, en qui elle s'achève, d'où elle vient, principe. Il a dit, la lumière qui découvre le péché et l'iniquité dans le cœur de l'homme n'est pas Christ la lumière, la porte. Réponse. Le premier Adam était la porte par laquelle tout péché et toute transgression sont entrés. Christ, le second Adam, la lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde, a dit « Je suis la porte, le chemin et la vie, lui qui met fin au péché et à la transgression introduit une justice éternelle, et le chemin de vie hors de la mort, lui dont la lumière découvre le péché. » Principe, il a dit « Appeler Christ la lumière, le don, la porte, le chemin, c'est prendre le jardinier pour Christ comme Marie l'a fait. » Réponse, nous ne prenons pas Christ, la lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde pour le jardinier. Nous le connaissons, et à tous ceux qui le reçoivent, il donne le pouvoir de devenir fils de Dieu. Et vous dites que ce n'est pas un pouvoir à exercer pour parvenir à la filiation, mais une autorité de prérogative pour être automatiquement fils, et ainsi vous tordez l'Écriture. Vous auriez donc dû être plus doux et plus humble de cœur, et alors vous auriez tenu votre langue en bride, et vous auriez appris de Christ, et seriez ainsi venus à la lumière, au fondement sûr, hors de l'erreur de vos voies, et vous seriez demeurés dans les traces du troupeau. Si votre langue avait été plus courte, et votre bride plus étroite, alors vous n'auriez pas mêlé l'alliance de Dieu avec l'esprit de l'homme, et vous ne l'auriez pas comparé à la loi des œuvres, dont Christ la lumière, qui éclaire tout homme venant dans le monde, est la fin. L'esprit de l'homme dans la chute est souillé, et son corps aussi, mais à mesure que l'on croit en la lumière, et que l'esprit est changé, son esprit et son corps sont sanctifiés, et ainsi il devient enfant de la lumière, et son esprit rend témoignage avec nos esprits que nous sommes fils de Dieu. Et nul ne reconnaît la porte, le médiateur, la vie, le chemin, sinon avec la lumière dont Christ éclaire tout homme venant dans le monde, laquelle lumière est la porte, le chemin et la vie. Le livre d'Eli Bradshaw intitulé « The Quaker's Quaking Principle » qu'il adresse au protecteur. Voici ses principes, principes. Il a dit « Ce Christ qui éclaire tout homme venant dans le monde ne le fait pas par une illumination directe, pas même aux élus pour les conduire au salut. » Réponse « Christ ne dit-il pas, je suis le chemin, la vérité et la vie, et il est la porte, et nul ne vient au Père que par lui, et nous devons apprendre de lui. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, dit Dieu. » Et n'est-il pas la nouvelle alliance dans le cœur, par laquelle les hommes n'ont pas besoin de dire « Connais le Seigneur, et il n'y a pas d'autre nom par lequel les hommes puissent être sauvés, sinon par le nom de Christ, qui éclaire tout homme venant dans le monde, afin que tous par lui croient. Et celui qui croit en la lumière ne demeure pas dans les ténèbres, mais à la lumière de la vie, et ceux qui n'y croient pas mais la haïssent, la lumière est leur condamnation, et la lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde est le salut, même si les hommes la négligent, les élus marchent en elle, elle condamne l'incrédule, elle est directe, et nul ne voit le salut sinon celui qui vient à la lumière. » Principe, il a dit, « La parole qui a été faite chair est visible, et la parole est la lettre, et ils n'ont jamais reçu d'elle l'esprit de vie, et c'est là l'erreur des Quakers. Dieu est la parole, Jean 1, 1, et Dieu n'est pas l'écriture, et vous ne pouvez pas recevoir l'esprit de vie de la lettre, qui tue selon l'écriture, la lettre tue mais l'esprit vivifie. » 2 Cor 3, 6, « Les paroles que je vous dis sont esprit et elles sont vie. » Jean 6, 63, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas, ne mettez-vous pas en pratique, n'obéissez-vous pas à ce que je vous dis? Quiconque vient à moi entend mes paroles, et les fait les mettre en pratique, obéit, je vous montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison, qui creusa profondément, et posa le fondement solidement sur le roc, et quand survint l'inondation, le torrent se jeta violemment contre cette maison, mais ne put l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais celui qui entend et ne fait pas, ne met pas en pratique mes enseignements est semblable à un homme qui bâtit une maison sur la terre, sans fondement, le torrent frappa violemment contre elle, et aussitôt elle s'écroula, et la ruine de cette maison fut grande. Luc 6, 46-49, réponse. Ceux qui avaient les Écritures, qui étaient jadis pour les paroles de Dieu, et les ordonnances que l'apôtre appelle charnelles, auxquelles les Juifs s'attachaient et ne voulaient pas venir à lui pour avoir la vie, ne voulaient pas venir à Christ. Ainsi, si des hommes ont toutes les Écritures et n'ont pas Christ, ils n'ont pas la vie. Car le diable peut avoir l'Écriture, mais a-t-il pour autant la vie et la puissance de Dieu Christ, son nom est appelé la parole de Dieu. La parole de Dieu vit et demeure à jamais, et l'Esprit n'est pas dans la lettre, et la lettre n'est pas la parole qui fut faite chair, et ceux qui le pensent sont dans l'erreur car la parole est invisible. Principe. Paul ne conseille pas seulement la lumière intérieure, mais il leur dit d'apporter son manteau, ses livres et ses parchemins, et de s'appliquer à la lecture. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, apporte aussi les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. 2 Tim 4, 12-14. Cet homme prend la mention par Paul de ses biens personnels, le peu qu'il possédait, qu'il demandait qu'on lui apporte et qu'il avait laissé dans une ville précédente. Il essaie d'assimiler cette obscure référence incidente au livre et au parchemin à ses exhortations concernant la lumière, alors qu'il y a 16 références très importantes et profondes à la lumière de Christ dans les lettres de Paul. Romains 2, 19. Et tu te persuades d'être toi-même un guide des aveugles, une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Romains 13, 12. La nuit est fort avancée, le jour est proche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons l'armure de la lumière. 1 Corinthiens 4, 5. Ne jugez donc de rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, lui qui mettra en lumière les choses cachées des ténèbres et manifestera les intentions des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. 2 Corinthiens 4, 4. Dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne voie pas briller la lumière de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, 6. Car Dieu, qui a dit, que la lumière brille du sein des ténèbres. Est celui qui a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les incrédules sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 11, 14. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Éphésiens 5, 8. Marchez dans la lumière, car autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Éphésiens 5, 13. Mais toutes choses, lorsqu'elles sont dénoncées, sont manifestées par la lumière, car tout ce qui manifeste est lumière. Éphésiens 5, 14. C'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Philippiens 2, 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération dévoyée et perverse, au sein de laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Colossiens 1, 12. Rendant grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. 1 Thessaloniciens 5, 5. Vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. 1 Timothée 6, 16. Lui seul possède l'immortalité. Il habite une lumière inaccessible, qu'aucun homme n'a vue ni ne peut voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. 2 Timothée 1, 10. Et qui a maintenant été manifesté par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a aboli la mort et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, Paul nous dit que l'Écriture est précieuse. Pour équiper un homme de Dieu, qui a d'abord été perfectionné des outils nécessaires à son ministère, pour lequel il a été spécialement doté par le Saint-Esprit, afin d'aider au perfectionnement des saints. L'Écriture, correctement interprétée, est très précieuse pour l'enseignement et la correction. Mais comme cet homme l'a démontré, entre les mains d'un disciple non perfectionné, elle est une source de grande confusion, qui est Babylone. Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfait, propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 16-17. Mais cet homme nie aussi la perfection et les œuvres, donc il ignore cette Écriture. Réponse. L'apôtre a dit aux saints que la lumière qui brillait dans leur cœur leur donnerait la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu, et il leur dit de marcher dans la lumière. Et Christ leur dit de croire en la lumière, et ils ne marcheront pas dans les ténèbres, et il n'y a pas sous le ciel d'autre nom par lequel les hommes puissent être sauvés, sinon le nom de Christ. Et nul ne voit la substance des Écritures, ni leur accomplissement, sinon ceux qui marchent dans la lumière, sinon ceux à qui Dieu parle par son Fils, qui est la fin des prophètes. Et là se trouve la vraie lecture et la vraie connaissance de tous les livres et parchemins, car nul ne connaît les Écritures sinon par la lumière qui vient de Christ en qui elles aboutissent. Principe et encore vous dites, il y a plus d'une parole. Réponse, Dieu est la parole, et les Écritures de vérité sont ces paroles que Christ accomplit. Principe, il a dit, ils ont communion avec le Père, mais non dans la même mesure des dons de grâce que les apôtres avaient. Réponse. Alors il est peu probable que vous compreniez les paroles des apôtres, ni que vous puissiez en être juge, à moins que vous ne parveniez à la même mesure et au même don qu'eux, sinon vous ne serez pas capable de juger de leurs états, ni de connaître leurs paroles. Principe. Il a dit, il n'y a aucun homme justifié par la foi en Christ, qui croit que les Écritures ne sont qu'une lettre morte, mais il croit qu'elles sont la parole de Dieu, en laquelle il y a esprit et vie spirituelle, comme des paroles de vie éternelle. Cet homme pense qu'il est justifié en lisant et en croyant l'Écriture. Il ne comprend pas que la justification s'obtient par le processus de la grâce pendant la recherche. Attendre Dieu en silence dans l'humilité, Dieu montrant à un homme ses péchés, et avec la repentance Dieu ôtant les péchés de son cœur, mais si, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, nous sommes nous-mêmes trouvés pécheurs, cela signifie-t-il que Christ encourage le péché? Certainement pas. Galates 2:17. Il ne comprend pas que la justice s'obtient par l'obéissance à une série de révélations, ce qui est la foi, car nous, par l'Esprit, nous attendons l'espérance de la justice par la foi. Galates 5:5. L'obéissance conduit à la justice. Romains 6:16. Réponse. L'Esprit et la vie ne sont pas dans les Écritures, mais étaient en ceux qui les ont produites, et beaucoup ont l'Écriture, et non l'Esprit de vie. Si le diable cite l'Écriture, a-t-il pour autant l'Esprit et la vie, alors qu'il en est manifestement éloigné? C'est comme les pharisiens, qui pensaient avoir la vie dans les Écritures, mais ne voulaient pas venir à Christ, la vie dont l'Écriture rendait témoignage. Les Écritures sont les paroles de Dieu, mais beaucoup ont les paroles et ni la parole qui est Christ, la lumière et la parole au-dedans de l'homme elle-même, et nul n'est justifié s'il a les Écritures mais est hors de la vie qui les a produites. Principe. Il a dit, c'est une doctrine insensée que de diriger les gens seulement vers la lumière intérieure, et quelle chose absurde que de parler à nos enfants de la lumière dans leur conscience, et de leur dire d'y obéir et de la suivre, cette lumière et cette parole qui sont dans leur cœur et dans leur bouche, et de négliger ainsi complètement l'enseignement des Écritures. Il faut encourager les enfants à lire l'Écriture, en particulier Matthieu, Luc, Marc et les Actes. Cependant, puisque des millions de ministres ont totalement mal compris les lettres de Paul, ce dont Pierre nous a avertis, les enfants ne devraient pas chercher à en comprendre les complexités, et dire à un enfant de lire l'Apocalypse est un mauvais jugement. Mais vos enfants devraient être conscients que l'Esprit de Dieu résonnera avec eux dans leur vie, et qu'il leur sera parfaitement clair ce qu'il leur dit. S'ils s'y attendent, ils peuvent reconnaître que cela vient de Dieu et seront plus enclins à obéir. Dieu cherche particulièrement à raisonner avec nous afin que nous n'entreprenions pas, au cours de notre vie, quelque voie illégitime. Si nous écoutons et suivons ses conseils, nous recevons davantage de conseils, si nous les ignorons, il nous ignore. Réponse, n'est-ce pas là le zèle de Saul, regimbant contre les aiguillons de sa conscience, lui qui avait l'Écriture? Ce n'est pas négliger d'enseigner les Écritures, ni la doctrine des apôtres, que d'amener les gens et les enfants à la lumière intérieure et à la parole dans leur cœur et dans leur bouche, pour lui obéir et la faire, ce qui était la doctrine des apôtres, et sont insensés ceux qui en sont hors, et ce sont ceux-là qui faisaient des prosélytes, qui n'amenaient pas les gens à la parole intérieure ni à la lumière intérieure, mais les en détournaient. Principe, il a dit, l'apôtre pensait faire beaucoup de choses contre l'Église, et pensait qu'il le devait, et la lumière intérieure n'informait pas sa conscience. Réponse, Christ n'a-t-il pas dit qu'il lui était dur à Saul de regimber contre ce qui le piquait? N'y avait-il pas en lui quelque chose qui le piquait, principe? Et vous dites que vous êtes trop ignorant des voies de Dieu, et du témoignage du sens de son esprit. Réponse, nous vous croyons, c'est pourquoi vous auriez mieux fait de garder le silence et d'écouter la lumière en vous, et la parole en vous, et la parole de foi et de sagesse, que nul n'entend sinon celui qui vient à la lumière intérieure, principe. Vous dites que vous êtes trop troublé par des pensées charnelles et de vaines imaginations, et attaché au monde. Réponse. De tels penchants ne sont pas susceptibles de reconnaître la lumière intérieure, la parole intérieure. Il n'est pas étrange que votre esprit s'oppose à la doctrine des apôtres, c'est-à-dire la lumière intérieure. 1 Cor 2:4. Principe. vous dites, c'est rabaisser les Écritures que de diriger les gens vers la lumière intérieure plutôt que vers les Écritures pour les conduire à la vie éternelle. Réponse. Beaucoup peuvent avoir l'Écriture et être éloignés de la lumière et de l'Esprit de Dieu qui était en ceux qui ont écrit les Écritures, mais nul n'a la vie éternelle sinon celui qui vient à la lumière intérieure et à l'Esprit qui était en ceux qui ont produit les Écritures. Et pour vous, ceci est la parole du Seigneur. Fox répète ce que le Seigneur lui a dit de répondre. Principe. Vous dites, la lumière intérieure est d'épaisses ténèbres, et quelles ténèbres et quelle cécité il y a là où l'on ne se soucie pas des Écritures et où on ne les connaît pas. Tous ces gens qui veulent assimiler les Écritures à l'Esprit prétendent aussi que, sans Écriture, il n'y a pas de salut ni de vie éternelle. Comment les saints et les prophètes, qui ont écrit les Écritures, ont-ils écrit les Écritures sans Écriture pour les guider? Selon cette pléthore d'adorateurs de la Bible dans ce livre d'accusation, les Écritures auraient dû être le commencement de toute chose, de toute connaissance et de toute sagesse. Peut-être devraient-ils modifier la Bible pour dire « Au commencement était l'Écriture, et l'Écriture était avec Dieu, et l'Écriture était Dieu ». Voyez-vous combien il est ridicule de croire que les Écritures et la parole sont la même chose? Lisez le livre de Job et vous verrez des hommes sans le moindre bout d'Écriture qui connaissaient plus Dieu que tous les soi-disant ministres de ce livre, auquel Fox répond patiemment et courtoisement, malgré leurs paroles issues d'épaisses ténèbres. Réponse. L'apôtre, qui dirigeait vers la lumière intérieure, n'a pas appelé cela d'épaisses ténèbres ni de la cécité, mais il a tourné les gens des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Et Abraham et Enoch n'étaient pas dans d'épaisses ténèbres et dans l'ignorance, pourtant ils n'avaient aucune écriture à considérer, mais tous deux étaient dans l'esprit et la foi de ceux qui plus tard écrivirent l'écriture. Ceux qui viennent à rendre témoignage au même esprit qui était en eux et qui a produit les Écritures, viendront à rendre témoignage à l'alliance de Dieu écrite dans leur cœur, et n'auront pas besoin de dire « Connais le Seigneur », cela cesse de s'appuyer sur l'homme, dont le souffle est dans ses narines, et ceux qui entrent dans cela reconnaissent l'Écriture extérieure, et sont dans la foi d'Abraham. Principe, il a dit, les élus peuvent être trompés, et tomber un temps de leur fermeté, et passer sous la mort et la puissance de Satan. Réponse. La semence élue est dans la tombe, et il n'est pas possible de la tromper, et les élus seront amenés hors de dessous tous les trompeurs, et de la mort et des liens, et ils franchiront les portes de l'enfer, bien que la semence ait auparavant été en captivité. Il n'est pas possible de tromper les élus, c'est le monde qui est trompé, ce qui a mené captif ira en captivité. Ève et le premier Adam peuvent être amenés dans la transgression, mais Christ le second Adam, la semence en vous tous, vous devez la connaître, c'est elle qui écrase la tête du serpent, et le fondement de toute tromperie. Ainsi les élus peuvent être un temps sous l'oppression et souffrir, mais l'élection obtiendra, non pas celui qui veut de lui-même, au lieu d'écouter la voix de Dieu et d'obéir pleinement à ses commandements, ni celui qui court en devançant son guide vers toute la vérité, mais celui qui vient jusqu'à la couronne d'honneur et de gloire. Principe. Il a dit, Satan trompe les hommes en les amenant à une posture d'abnégation. Cet homme montre une incompréhension totale de la manière dont l'homme cherche Dieu. Considérez les Écritures ci-dessous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Luc 9, 23 de même, quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Luc 14, 33 car la grâce de Dieu, source de salut, est apparue à tous les hommes, nous enseignant à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre sobrement, justement et pieusement dans le présent siècle. Tite 2, 11, 12. Mais remarquez ces paroles vaines, des mots qui sonnent bien, des mots grandiloques, des phrases complexes, tout cela confond les gens sans méfiance. Il est un ministre de Satan transformé pour paraître ministre de justice, parlant depuis son esprit charnel et sa vaine imagination, n'ayant jamais été enseigné par Dieu, doté par Dieu, ni envoyé par Dieu, seulement par l'homme. Réponse. Ce n'est pas le diable qui amène les hommes à être humbles et à renoncer à eux-mêmes. Ce qui enseigne l'abnégation, c'est Christ. Ce qui tient hors de l'abnégation, c'est le diable lui-même, car il a quitté l'abnégation quand il est sorti de la vérité. Principe. Ils disent cela ne pourront jamais être exempts d'un degré de blasphème, qui ont l'Esprit de Dieu en eux et parlent contre le ministère, les magistrats et les ordonnances, et disent aux gens d'écouter la lumière en eux, et l'enseignement de l'Esprit, et qu'ils sont tous enseignés de Dieu. Jésus a dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Jean 6, 45 L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice et il enseigne aux humbles sa voie. Psaume 25, 8, 9 Je t'instruirai et je t'enseignerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, ayant mon œil sur toi. Psaume 32, 8. Voici ce que dit l'Éternel, ton protecteur, le Saint d'Israël. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'enseigne à réussir, qui te conduit par la voie où tu dois marcher. Ésaïe 48, 17. Mais le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Jean 14, 26. Car la grâce de Dieu, source de salut, est apparue à tous les hommes, nous enseignant qu'en renonçant à l'impiété et aux convoitises mondaines, nous vivions sobrement, justement et pieusement dans le présent siècle. Tite 2, 11-12 réponse. Ce qui rendait témoignage à l'esprit et à la lumière intérieure était enseigné de Dieu, était poussé par le Seigneur à déclarer contre les ministres, les magistrats et les ordonnances qui s'opposaient à Christ, la puissance de Dieu, et ceux-ci furent appelés blasphémateurs alors qu'ils ne l'étaient pas, l'Écriture le déclare, mais ils reconnaissaient la puissance qui mettait fin à toute chose changeante et qui venait sur toutes les têtes des transgresseurs et blasphémateurs, cette puissance qui était une louange pour ceux qui faisaient le bien. Principe, il a dit, ils disent que l'Écriture peut être achetée et vendue, et qu'elle ne profite pas, mais la lumière intérieure est d'une nature éternelle, un guide infaillible, donc, en lui obéissant, ils seront sûrs d'atteindre la perfection et la vie éternelle. Or, dit-il, ceux qui disent cela sont de pauvres âmes ignorantes et instables. Réponse. Ne pouvez-vous pas acheter et vendre les Écritures, et vos sermons et vos prières? Quelqu'un peut-il avoir la consolation des Écritures, un guide infaillible, la perfection et la vie éternelle, et l'âme affermie, et sortir de l'ignorance sinon celui qui vient à la lumière et à l'Esprit de Dieu au-dedans, qui a produit les Écritures par lesquelles ils viennent à connaître Dieu le Père des Esprits, et apprennent de lui qui a donné les Écritures, et ainsi viennent dans l'Esprit, et dans le lien de la paix, et dans l'unité avec les Écritures avec Dieu, et les uns avec les autres. Et l'Esprit de Dieu n'amène pas les hommes à détester les Écritures, ni les ministres de Christ, mais à voir à quel état et à quelles conditions elles ont été adressées. Principe. Vous dites, la mesure de Christ doit être telle que vous devez donner votre vie pour les frères, et vous aimez les uns les autres, et bien plus encore donner vos biens. Réponse. Quand y a-t-il eu un prêtre dans la nation qui ait abandonné ses biens par amour pour Christ ou pour ses frères, à moins d'avoir un autre motif égoïste? Ou quand avez-vous vu un prêtre renoncer à ses biens pour faire sortir d'autres personnes de prison? Au contraire, les prêtres font jeter les gens en prison jusqu'à la mort parce qu'ils ne peuvent pas lui donner les dîmes. L'apôtre ne dit pas, n'avons-nous pas le pouvoir de prendre les dîmes, mais n'avons-nous pas le pouvoir de manger et de boire? Et ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile, et ils apportent de bonnes nouvelles, mais ce n'est pas une bonne nouvelle que de jeter en prison, et de traîner devant les tribunaux, et ceux qui prêchaient l'Évangile vivaient de l'Évangile, qui ouvrait les cœurs des gens sans la contrainte du pouvoir des hommes. L'amour qui existait parmi les premiers friandes était très fort. Lorsqu'un friande subissait un emprisonnement long ou dur, d'autres friandes allaient vers les autorités et offraient de prendre sa place en prison et de payer toute amende nécessaire à sa libération. 149. Quick envoyèrent une lettre au Parlement, cliquée pour voir, offrant de remplacer leurs frères souffrant en prison. C'est une offre remarquable d'amour et de sacrifice de soi, disponible à la lecture sur ce site. Un épisode célèbre parmi ces nombreuses offres fut celle faite au Lord Protecteur Oliver Cromwell de prendre la place de George Fox en prison. L'un d'eux alla voir le Lord Protecteur, Oliver Cromwell, et offrit d'être emprisonné à Domsdale à la place de George Fox. Le protecteur, frappé par cet acte d'amitié, regarda autour de lui ses partisans en demandant « Lequel d'entre vous ferait autant pour moi si j'étais dans la même situation ?» Et bien que Cromwell n'accepta pas l'offre du friand, disant qu'il ne pouvait pas le faire car c'était contraire à la loi, pourtant cet acte d'amour s'imposa puissamment à lui comme vérité. Extrait du journal de George Fox. Or c'était un temps de grande souffrance, et beaucoup de friandes étant en prison, beaucoup d'autres friandes furent poussées à aller au Parlement pour s'offrir à être enfermées dans les mêmes prisons où se trouvaient leurs amis, afin que ceux qui étaient emprisonnés puissent sortir et ne périssent pas dans les geôles puantes. Nous avons fait cela par amour pour Dieu et pour nos frères, afin qu'ils ne meurent pas en prison, et par amour pour ceux qui les y avaient jetés, afin qu'ils ne fassent pas retomber sur leur propre tête le sang innocent, ce que nous savions devoir crier vers le Seigneur et attirer sur eux sa colère, sa vengeance et ses fléaux. Le Parlement a ignoré leur offre. Des fléaux, peste noire, peste de Londres, des incendies, grand incendie de Londres et des guerres, guerres anglo-néerlandaises, sont survenus peu après, principe. Il dit, vous ne devez pas prêter l'oreille aux Quakers, car ils vous disent que vos ministres cherchent leur profit auprès de leur quartier, et sont des mercenaires, et cela, dit-il, est tromperie, et profondeur de Satan, et esprit menteur et malicieux, réponse. L'esprit des prophètes n'était pas un esprit menteur et malicieux qui criait contre ceux qui cherchaient leur profit auprès de leur quartier, et disait qu'ils étaient des mercenaires, c'est dans cet esprit que sont les Quakers, et ils vous voient marcher dans les mêmes traces. Ôtez-vous votre profit et votre salaire, et vous intentez des procès devant les tribunaux, et vous traînez les gens de ci, de là, ce qui montre que vos esprits sont les faux esprits dont parle l'apôtre, qui se sont répandus sur la terre. Principe, vous dites, par-dessus toute chose, gardez-vous de la cupidité. Réponse. Si vous y aviez pris garde, vous auriez été de meilleurs exemples pour les nations qui vous entourent, mais dans la cupidité vous êtes engloutis, et ainsi vous êtes excommuniés hors de la vie dans laquelle étaient les prophètes, Christ et les apôtres, et ainsi vous aurez votre récompense de sa part. Vous trouvez à redire que le peuple est cupide, et vous vous en plaignez ainsi à toute la nation. Vous auriez dû vous plaindre de vous-même, de ce que vous êtes hors de la puissance de Dieu, qui aurait dû abattre la cupidité, et de ce que vous n'êtes pas dans la vie et la puissance où étaient les apôtres, et ainsi votre enseignement n'a pas un tel effet que celui des apôtres. Ainsi vous avez manifesté et montré vos esprits aux nations, et vous montrez que vous manquez de couverture. Les apôtres n'écrivaient pas au dehors, au monde, que leur église était cupide, ni n'envoyaient aux magistrats pour se plaindre à eux. N'auraient-ils pas déshonoré la puissance de leur église s'ils avaient fait cela, et ne l'auraient-ils pas couverte de honte, comme vous faites de la vôtre principe ? Il dit, « Beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde, ne croyez pas tout esprit, et Satan se transforme en ange de lumière. » Réponse. Ces choses, les apôtres les virent venir dans le monde avant leur décès, le diable se transformant en ange de lumière, et de faux prophètes et de faux esprits sortis dans le monde, et depuis les jours des apôtres, tous ceux qui habitent sur la terre sont allés après eux et la bête, excepté ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Et l'apôtre, lorsque Satan se transformait en ange de lumière parmi les Corinthiens, les ramena à la lumière en eux, qui leur donnerait la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Et Jean vit que ce dont Christ avait dit qu'il viendrait était venu, les faux prophètes et les faux esprits, et il leur dit de ne pas les suivre, et Jean leur dit qu'ils avaient l'onction en eux pour les enseigner, et n'avaient besoin d'aucun homme pour les enseigner, mais que cette même onction les enseignait, et qu'ils devaient demeurer dans le Fils et dans le Père, là où il n'y avait aucun faux esprit. Ces faux esprits, prophètes et antéchristes que Christ avait dit devoir venir, que Jean vit être venus, et qui sortirent d'eux, ont fait des langues, des peuples, des multitudes et des nations des eaux, et ce sont là leurs fruits, comme en Apoc 17:15. Les gens viennent tout juste de ces eaux et de ces faux esprits au rocher. Ce sont eux qui entraînent les nations à être comme des eaux, lesquelles se sont retournées contre les saints et l'agneau, mais l'agneau et les saints auront la victoire. Néanmoins, ces faux prophètes, bêtes antéchristes, faux esprits, tous intérieurement ravisseurs loin du vrai esprit, ont eu l'habit de brebis, autrement ils n'auraient pas pu tromper le monde, ni conduire le monde après eux, ni amener des nations à être comme des eaux, et c'est là que s'est trouvé le pouvoir de la bête sur tous les peuples, langues et nations, et ses têtes et ses noms dans les nations, et parmi les langues. Pourtant toutes ces têtes et ces noms se sont accordées en un seul contre Christ, la lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Et le diable, la bête et les faux prophètes ont fait la guerre aux saints et les ont vaincus, mais les saints et l'agneau les vaincront, et le diable sera pris, et avec lui la bête et le faux prophète et Babylone sera confondu, et l'agneau et les saints auront la victoire. Réjouissez-vous sur eux, vous saints et saints prophètes. L'agneau et les saints auront le royaume, et la puissance sur tous les peuples, langues et nations, qui sont rachetés d'entre eux, et de la terre pour régner avec Christ, et au-dessus du diable et de ses anges, lesquels ne peuvent entrer dans la semence. Principe. Ils disent c'est une vanterie des Quakers de dire qu'ils ont en eux l'esprit éternel de Dieu, et il dit qu'ils peuvent correctement user du maudit à l'égard d'une seule personne, et que retirer son chapeau est révérence, dû et honneur, et qu'il ne faut pas éteindre le lin qui fume, mais être courtois, et rendre la coutume à qui la coutume, et s'en tenir à la loi et au témoignage. Réponse. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas, et cet esprit est éternel, et celui qui dit you à une seule personne montre qu'il n'a appris ni la grammaire à leur enseigner ni la Bible. Et le chapeau est l'honneur des hommes d'en bas, sur la terre, l'honneur d'Adam dans la transgression, mais Christ, le second Adam, a dit « Je ne reçois pas d'honneur des hommes ». Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez l'honneur les uns des autres, et ne cherchez pas l'honneur qui vient de Dieu seul? Ainsi c'est la marque d'un incrédule. Et les apôtres n'observaient ni les coutumes des Juifs ni les coutumes des païens, car s'ils l'avaient fait, ils n'auraient pas eu besoin d'être persécutés par eux. Être courtois, c'est se faire du bien les uns aux autres, mais comment cela se pratique-t-il parmi vous, lorsque vous jetez en prison ceux qui ne peuvent rien mettre dans vos bouches, et pour lesquels vous ne faites aucun travail, où est votre courtoisie, ici? Ils ne brisent pas le roseau froissé ni n'éteignent le lumignon qui fume, ceux qui reconnaissent la lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde, cela ne néglige pas leur salut. Mais ceux qui nient la lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde négligent leur salut, et tels sont ceux qui brisent le roseau froissé et éteignent le lumignon qui fume. La lumière amène à reconnaître la loi et le témoignage, mais beaucoup peuvent avoir les Écritures et ne pas avoir la loi et le témoignage, car la loi est lumière, et le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie, et cela était avant que le Nouveau Testament fût écrit, comme en Ésaïe 8, et c'était avant que Matthieu, Marc, Luc et Jean, ou l'une quelconque des épîtres ne fussent écrits. Et quant au reste de vos mensonges, calomnies et paroles dures, ils retomberont sur vous-même et seront votre propre fardeau, le témoin dans votre conscience me répondra au jour de votre jugement. Et ceux qui n'ont pas l'Esprit éternel ne lui appartiennent pas. Thomas Weld, Richard Prideaux, Samuel Hamon, William Coles et William Durant, leur livre intitulé « A Discovery of a Generation of Men Called Quakers », on y trouve les principes suivants. Principe, premièrement, que l'âme est une partie de l'essence divine. Réponse. Ce qui vient de Dieu, que Dieu tient en ses mains, dont Christ est l'évêque, est de Dieu divin et immortel. Ce que beaucoup de prêtres disent être l'appétit, la convoitise et le plaisir, et l'âme de Christ, disent-ils, est humaine, ce qui est terrestre. Ainsi vous qui venez d'une même mère tous issus du parti romain n'êtes pas d'accord entre vous sur ce point, et les gens commencent à vous voir, il fut un temps où ils ne savaient lequel de vous croire, mais maintenant ils croient en Christ, qui est l'évêque de leurs âmes. Principe, il y a un mystère d'iniquité à dire, le monde les appelle ainsi, de tels et tels noms, ou leur donne leur nom chrétien. Réponse. Il y a des noms donnés par les païens des païens au dehors, par lesquels les hommes sont appelés, et il y a un nom nouveau que le monde ne connaît pas, écrit dans le livre de vie. Ici l'homme nouveau est connu, créé selon Dieu en justice et en vraie sainteté. Qui est donc cet homme nouveau? Quel est ce nom nouveau? Le monde peut l'appeler par l'ancien. Ainsi ce n'est pas un mystère d'iniquité que de dire que le monde l'appelle ainsi. Principe, c'est un péché que de négliger leur famille en errant de-ci de-là, et l'abandon de l'habillement changeant, ils l'appellent sainteté monastique. Réponse. Quand les gens se précipitent dans la transgression, hors de la vie de Dieu, vers la terre, alors surgissent la convoitise des yeux, la convoitise du monde et l'orgueil de la vie, qui les conduit à toutes les modes du monde, ce qui n'est pas du Père mais du monde. Or les convoitises et les affections doivent être mortifiées, elles qui ont extérieurement transgressé le pur principe de Dieu au-dedans, par quoi l'Esprit est sorti vers les créatures et les choses du dehors, par quoi il tombe sous les créatures, et vient ainsi à adorer la créature plus que le Créateur, qui est Dieu béni éternellement, étant sorti du principe de Dieu dans ses propres particularités. L'Esprit de Dieu est ce qui mortifie le monde lorsque les hommes se tournent vers lui, et cela détache de toutes les convoitises du monde, et des excès, et des affections, et des professions, qu'elles soient de celles que vous appelez monastiques, ou de celles d'une présomption feinte, ou autre. Cela introduit dans la possession, dans la vie qui mortifie. Car ce que vous appelez « sainteté monastique » ressemble à la vôtre, parce que vous n'avez pas l'esprit dans lequel vivaient ceux qui ont produit les Écritures, toute sainteté qui se tient hors de l'esprit est justice propre. Les apôtres et les fidèles de tous les âges, qui erraient de ci de là, faisaient la volonté de Dieu, parlaient la parole de Dieu, étaient commandés et mus par le Seigneur, et abandonnèrent tout pour Christ. Christ n'a pas enseigné aux hommes à pécher. Celui qui n'abandonne pas tout n'est pas digne de lui, maison, terre, femme, enfant, quoi que ce soit, celui qui estime l'une de ces choses plus que Christ vit encore en dessous, il vit encore sans s'être livré, il n'est pas digne de lui. Et ceux qui n'abandonnent pas tout et ne sortent pas de tout sont dans une négligence pécheresse envers la famille du Seigneur du ciel et de la terre, et ils restent en bas dans leur maison lambrissée demeure, nids, trous et rochers appelant les montagnes, et là ornant les tombeaux, et vivant dans toutes les modes, coutumes, honneurs et plaisirs du monde. Et l'œuvre des prêtres a été cela, enseigner au peuple à demeurer dans la convoitise, et à ne pas abandonner et sortir de toute leur convoitise vers Christ, ce qui les rend indignes de lui. Et si quelqu'un le fait, il le regarde comme un néglige pécheur de sa famille, alors que cette sagesse était avant que toutes choses fussent faites, et est la conservatrice et l'achèvement de toutes choses, non la destructrice mais celle qui reprend, et par cela les hommes sont ordonnés à la gloire de Dieu. Principe, les Quakers nient la justice imputée, la prière, le baptême, le gouvernement de l'Église, le ministère. Réponse. Que vous cinq, qui êtes appelés ministres, publiez ainsi vos mensonges à la nation. Les puissances supérieures, l'unique gouvernement, l'Église, colonne et soutien de la vérité, le ministère qui est dans l'Esprit, qui sert l'Esprit en prison, le baptême par l'Esprit dans l'unique corps, la prière dans l'Esprit, la scène du Seigneur, lui qui demeure dans les saints, marche en eux et soupe en eux, l'Évangile, puissance de Dieu, et la justice imputée aux croyants, tout cela est reconnu. Abraham crut, et cela lui fut compté comme justice, et Christ venu, et Christ en vous est le terme de la foi, lui qui est la justification même et la justice même, plus près qu'au commencement de leur foi. Voici la justification même sans imputation, la justice de Dieu, ici la foi s'achève. Et toutes ces choses sont reconnues selon les Écritures, mais tous ces maîtres qui sont dans la terre, et enseignent pour de l'argent et des moyens, nous les nions, et vous qui baptisez, et vendez vos prières, votre prédication et votre scène pour de l'argent, nous vous nions. Principe, le discernement des mystères de l'Évangile prouvera-t-il une puissance à discerner l'état et la condition de l'âme, ce qu'elle sera pour toute l'éternité, n'est-ce pas une grande ignorance ? Réponse. Les ministres de l'Esprit veillaient sur l'âme, les prophètes et les apôtres connaissaient son état, et connaissaient Christ, son évêque, ils voyaient quand l'âme était dans la mort, et voyaient quand Dieu prenait plaisir en elle, quand elle vivait, et voyaient l'âme dans la main de Dieu. Car ceux qui ont les mystères de l'Évangile, qui est la puissance de Dieu, qui donne liberté à l'âme captive, c'est une bonne nouvelle pour les justes. Un tel est un véritable ouvrier, qui partage correctement son ouvrage, et n'a pas honte de son ouvrage, de son édifice, mais présente l'âme à Dieu, et sait quand elle est dans la mort et quand elle est vivante. Ainsi ceux qui sont montés jusqu'à l'évêque Christ sont une seule âme, ils connaissent la main de Dieu dans laquelle l'âme vit, qui est la puissance, et connaissent ainsi de l'éternité à l'éternité. Ainsi vous, prêtres, qui ne discernez pas l'âme et son état jusqu'à l'éternité et depuis l'éternité, vous n'êtes pas dans le mystère de l'Évangile qui lui donne liberté, ni ne l'avez-vous, car vous buttez contre la lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde, laquelle vient de Christ, l'évêque de l'âme, et ainsi vos ténèbres ne peuvent la comprendre. Et ainsi, quelle communion la lumière a-t-elle avec les ténèbres ? Elle n'a aucune communion avec elle, car vos ténèbres ne peuvent la comprendre, bien qu'elle brille dans vos ténèbres. Ainsi pour vous, parlez des saints jugeant le monde, et vous mêlez de telles choses, vous qui devez être jugés par les saints, vous qui êtes dans ces ténèbres qui ne peuvent comprendre la lumière qui brille en vous, vous n'avez pas de lumière pour comprendre les saints qui sont dans la lumière, qui ont le juste poids, la juste mesure et la juste balance, qui sont les juges du monde atteignant, mesurant, répondant conformément à ce qui est de Dieu en tout homme. Vous butez contre ceux qui sont devenus fils de Dieu, fils adoptifs et héritiers de la chair et des os de Christ, de sa pensée et de son esprit, qui sont en possession des Écritures de la vie durable des saints, ce qui vous fait vous qui ne pouvez comprendre la lumière dans vos propres particularités entrer en rage, car nul ne vient rendre témoignage de la filiation et de l'héritage, sinon ceux qui viennent à la lumière dans leurs propres particularités, la reçoivent, et par elles comprennent les ténèbres que la lumière chasse. Ceux-là voient au-dessus de la nuit, et sont les enfants du jour. Et vous, cinq prêtres, vous vous êtes couverts de honte, vous qui ne connaissez pas l'âme de l'éternité à l'éternité. Principe, c'est un blasphème que de dire que l'âme est une partie de l'essence divine. Réponse. Vous pouvez lire, dans ce livre, que certains des autres prêtres appelés ministres disent que Christ est humain, et que l'âme est une créature. D'autres encore disent qu'elle est une partie de l'essence divine, qu'elle est immortelle, et d'autres encore, qu'elle est appétit et plaisir, et en cela leur confusion est maintenant manifestée. L'âme est ce qui est sorti de Dieu, et est dans la main de Dieu, laquelle main s'oppose à celui qui fait le mal et transgresse le principe de Dieu qui est en lui. Cette main s'oppose à la convoitise qui fait la guerre contre l'âme, et l'âme étant dans cette main loue Dieu. La main est ressentie, la puissance est ressentie, qui se retourne contre ce qui lui fait la guerre. Ici l'âme magnifie Dieu, se réjouit en Dieu le Sauveur, et loue Dieu. Ici est le bon plaisir de Dieu. Le Seigneur vivant prend plaisir en l'âme vivante. Et l'appétit et le plaisir sont humains, ceux-ci ne sont pas immortels, comme les lames. Ainsi vous cinq, vous vous êtes jugés vous-même blasphémateurs, vous qui avez dit que l'âme était partie de l'essence divine, et pourtant que c'est blasphème que de le dire. Principe, Christ doit régner comme un roi, mais en tout il ne règne pas. Réponse. Ceux-là et vous, qui haïssez la lumière, ne veulent pas l'entendre, ni la voir pour régner sur vous et sur eux, tels sont pour l'épée, et pour être mis à mort devant lui. Principe et la lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde n'est pas suffisante pour le salut, ni ne donne une lumière suffisante pour conduire à l'Évangile, pour connaître le Médiateur, et cette lumière qui a éclairé tous les hommes n'est pas la voie, mais une lumière créée par Christ. Dieu est lumière. 1 Jean 1:5. Jésus est la lumière du monde, et quiconque le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Jean 8:12. Le salut consiste à être délivré du péché et à être restauré à la vie de Dieu, en marchant comme des saints dans la lumière de Dieu, dans la Jérusalem céleste où la gloire de Dieu éclaire la cité et où il n'y a pas de nuit. Cet homme est tellement la lumière qu'il ignore, de façon trompeuse, plus de 100 passages des Écritures qui parlent de la lumière de Dieu et de Christ. Réponse. Toutes les lumières ont été faites et créées par la lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde, et c'est l'œil de l'âme qui donne de voir Christ, son évêque de qui elle vient. Cette lumière est l'alliance de Dieu qui éclaire tout homme venant dans le monde, et cette lumière nous fait voir le Médiateur, le salut, l'Évangile. Tous ceux qui viennent de la lumière sont hors de la vérité, ceux qui sont sortis de la vérité, le Dieu de ce monde a aveuglé leurs yeux, de peur que la lumière du glorieux Évangile ne brille en eux, laquelle est l'image de Dieu. Ainsi les lumières créées ont été créées par elle, et nul ne connaît la vérité sinon par cette lumière, et toutes les professions des hommes ne viennent que de cette nature, qui est hors de cette lumière qui a éclairé tout homme venant dans le monde et dans laquelle tous les hommes doivent entrer avant d'entrer dans l'unité avec Dieu. Nul ne peut connaître le médiateur ni Christ par les lumières créées et faites, qui ont été faites par la lumière de Christ, mais à mesure qu'ils entrent dans la lumière par laquelle ils ont été faits, celle-ci leur donne la sagesse de la création et leur fait voir comment ils ont été faits. Ainsi, ceux qui haïssent la lumière ne reçoivent pas l'Esprit de Dieu, mais demeurent dans leur état naturel, et ce que tels connaissent, ils le connaissent naturellement par des livres, des auteurs et des études. Ainsi les hommes qui haïssent la lumière ne viennent pas à Christ, l'auteur de leur foi, et ainsi leur foi est dans l'Écriture, non dans Christ, principe. Combien il est ridicule de dire que Christ demeure en tout, donc est en tout. Mais l'Écriture nous dit que Christ et le Père sont en tout, il est donc ridicule de nier que Christ demeure en tout. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et par tous, et en vous tous. Éphésiens 4, si il a fait d'un seul sang toutes les nations d'hommes pour habiter sur toute la face de la terre, et il a déterminé les temps fixés et les limites de leur habitation, afin qu'ils cherchent le Seigneur, si peut-être ils pouvaient le tâtonner et le trouver, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous vivons, nous nous mouvons, et nous avons notre être. Actes 17, 26-28. Réponse : Christ est la lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde, et l'Écriture dit que Christ sonde les cœurs des méchants, éprouve leurs reins, et amène leurs pensées à la lumière qui brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne la comprennent pas. Il était dans les saints, et les saints étaient dans la lumière, ainsi il est en tout, au-dessus de tous et par tous, et l'aveuglement et les ténèbres ne le comprennent pas, lui qui remplit le ciel et la terre. Si tu vas aux extrémités de la terre, il est là, si tu descends dans l'abîme, et jusqu'à l'enfer le plus bas, il est là, où fuiras-tu loin de sa présence. Les saints hommes de Dieu n'ont-ils pas trouvé cela? Êtes-vous donc, vous tous ministres de la lettre, si ignorants de la lettre, êtes-vous tous si éloignés de l'état qui l'a produite? Et je dis, ceux qui sont assis sous l'ombre des ténèbres sentiront, s'ils veulent seulement prêter l'oreille et écouter, et ceux dont les cœurs sont mauvais le sentiront les sonder et les reprendre. Ceux qui descendent, jusqu'à l'enfer le plus bas, et aux extrémités de la terre, sentiront sa présence s'ils ne se sont jamais mis en route, et ils n'auraient pas besoin d'errer pour une habitation, mais devraient sentir leur habitation. Alors cela devrait venir à connaître le progrès de leur âme, qui est un travail intérieur, avant qu'elle n'entre dans son évêque, Christ, le repos, lui par qui le monde a été fait, qui était avant qu'il fût fait, glorifié avec le Père avant que le monde commençât, principe. Et c'est une erreur de dire que la justice de Christ, la justification, la sanctification et la rédemption sont toutes au-dedans. Réponse. Si Christ n'est pas au-dedans, ils sont réprouvés, et les réprouvés peuvent parler de Christ, et ceux qui sont hors de la vérité et de la vie peuvent parler de Christ et apporter les Écritures. Mais ceux qui ont Christ au-dedans ont la sanctification, la rédemption et la justification, ils ont la sagesse et la puissance de Dieu, car les réprouvés sont des parleurs du dehors, mais celui qui a Christ a tout le reste, rédemption, sanctification, sagesse, justice, et l'œuvre est connue au-dedans à mesure qu'il sort de la chute du premier Adam. Principe, c'est une erreur de dire que la lumière qui découvre le péché justifie. Réponse, la lumière, qui est l'alliance de Dieu, qui éclaire tout homme venant dans le monde, découvre le péché, le rend manifeste, l'efface, justifie, sanctifie, rachète et condamne ceux qui la haïssent. Principe. C'est une erreur de dire que la lumière au-dedans des hommes amènera les hommes à la crainte de Dieu et les conduira à la justification, à la sanctification et à la justice. Réponse. Nul ne vient à la justification, à la justice, s'il est hors de la crainte de Dieu, ni à recevoir sa justice, mais ceux qui viennent à la lumière au-dedans, qui vient de Christ la justice, la sagesse, viennent à la justification et à la sanctification, et vous êtes dans l'erreur, vous qui n'êtes pas dans cette lumière qui fait voir et qui conduit hors d'elle. Principe. La perfection en sainteté ne peut être atteinte dans cette vie, car Adam était sous une telle alliance, il n'avait pas de médiateur en cas de rupture du commandement. Cet homme nie plus d'une centaine de passages des Écritures qui montrent que Dieu requiert la perfection, la pureté et la sainteté, et qui montre que l'Église primitive avait la perfection et la sainteté. Les premiers Quakers revendiquaient la perfection, Christ les transformant, et revendiquaient la sainteté, mais les prêtres en vue du protestantisme, qui n'avaient jamais entendu la voix de Dieu ni vu sa forme, les persécutèrent, leur état en Christ prouva qu'ils étaient de faux prophètes, et ainsi ils excitèrent les magistrats du gouvernement, qui tuèrent près d'un millier de Quakers, emprisonnèrent des dizaines de milliers de Quakers, et saisirent les biens de dizaines de milliers de Quakers. En outre, beaucoup de Quakers furent tués par des foules en colère de baptistes, presbytériens, épiscopaliens et congrégationalistes, qui attaquaient les Quakers dans leurs réunions silencieuses, en tuant certains et en blessant gravement beaucoup d'autres. Partout où l'Esprit de Christ apparaît, ressuscité dans ses vrais croyants, la religion du temps est dénoncée et la chrétienté organisée persécutera encore Christ. Car Christ se tient toujours contre le monde, et puisque la religion fait la paix avec le monde par l'adultère spirituel, elle attaque tout ce qui la convainc. En effet, tous ceux qui sont déterminés à vivre pieusement en Jésus-Christ souffriront persécution. 2 Tim 3:12. Le temps vient où quiconque vous tuera croira rendre service à Dieu. Jean 16 de réponse. Dieu dit à Adam, la semence de la femme brisera la tête du serpent. Christ, la promesse, le médiateur, a fait le chemin qui était le chemin de retour à Dieu, le chemin de la rédemption de l'homme, et a abaissé la tête du serpent qui s'était dressé dans la transgression, afin que Christ, la tête, règne, afin que la semence de la femme ait la domination, le second Adam, la semence, Christ Jésus, le Seigneur venu du ciel. La perfection ne peut être atteinte par la vie que vous vivez, jusqu'à ce que vous veniez au principe de Dieu en vous, mais la vie dans laquelle David vivait voyait une fin à toute perfection. Et tous ceux qui viennent à Christ, le second Adam, viennent à la perfection, et tous ceux qui l'atteignent atteignent la perfection dans la vie de Dieu, hors du premier Adam, mais ceux qui nient la lumière, qui éclaire tout homme venant dans le monde, et se reposent dans le premier Adam, dans la vie qu'ils vivent, nient la perfection et ne la reconnaissent jamais dans la vie qu'ils vivent. Mais ceux qui viennent à la perfection viennent en Christ, une vie nouvelle, hors d'Adam dans la chute, dans la transgression. Tous les médecins des malades sont là pour les rendre parfaits. Et vous dites, n'en rendez aucun entier, n'en rendez aucun parfait, ne rendez jamais aucun homme parfait. Car en étant rendus entiers, ils sont rendus parfaits car le péché blesse, car le ministère de Dieu était d'amener les gens à l'homme parfait, afin de les présenter parfaits. C'étaient des médecins de valeur et de prix, par lesquels le corps, l'âme, l'esprit, tout était guéri, et ils glorifiaient Dieu dans leur corps et dans leur esprit. Maintenant vous, qui dites qu'ils ne seront pas parfaits, et qu'aucun ne sera sans péché sur la terre, pas de perfection dans la vie que nous vivons, vous êtes des médecins sans valeur. Vous n'êtes pas digne de porter le nom de médecin, de ministre ni d'enseignant, Thomas Weld, Richard Prideaux, Samuel Hamon, William Cole et William Durant, car vous plaidez que tant que les hommes sont sur la terre, ils doivent avoir un corps de péché, et que celui qui dit autrement est un trompeur. Ainsi vous les maintenez dans leurs blessures et ulcères, suppurants et imparfaits, et vous n'êtes pas ceux qui réparent la brèche et qui bandent la plaie. Et le Seigneur a dit, « Quand vos péchés seraient rouges comme l'écarlate, je les rendrai blancs comme la laine, et j'effacerai le péché et la transgression, si vous êtes disposés et obéissants. » Et cet amour tendre, et cette bonté du Seigneur, et sa miséricorde envers les pécheurs et les transgresseurs, le Seigneur les a rendus manifestes parmi ceux que le monde, par moquerie, appelle Quakers. Et ce n'est pas une chose étrange que vous ne vouliez pas que les gens abandonnent les modes du monde, vous qui êtes ainsi chargés de rubans, de manchettes et d'écharpes, et de vos doubles revers de bottes plus semblables à des acteurs qu'à des ministres. Principe, la perfection est une fantaisie notion imaginée. Ce n'étaient pas des paroles de vrais médecins que d'amener les hommes à un homme parfait, à la croissance en perfection parmi les parfaits qui parlent sagesse. Ils disent, il n'est dit nulle part que la loi est accomplie en dessein dans cette vie. L'accusateur nie les passages suivants des Écritures, celui que nous prêchons, avertissant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin que nous puissions présenter tout homme parfait en Jésus-Christ. Colossiens 1:28 jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Éphésiens 4:13 cependant, c'est parmi les parfaits que nous parlons sagesse, 1 Cor 2:6. Annulons-nous donc la loi par la foi, Dieu nous en garde. Au contraire, oui, Dieu nous en garde, nous établissons la loi. Romains 3:31 ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime autrui a accompli la loi. Car ceci, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne porteras pas de faux témoignage, tu ne convoiteras pas, et s'il y a quelque autre commandement, tout se résume dans cette parole, à savoir, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, ainsi l'amour est l'accomplissement de la loi. Romains 13, 8-10 réponse. Ceux qui aiment Dieu gardent ses commandements. Christ est la fin de la loi pour quiconque croit, et ceux qui sont en lui sont dans la fin de la loi. Et tous ceux qui demeurent dans l'amour demeurent en Dieu. Et l'amour est l'accomplissement du commandement. Ceux qui sont de la semence de Dieu gardent les paroles de Dieu. Mais la bête et les faux prophètes depuis les jours des apôtres, qui ont intérieurement ravagé, se sont tournés contre la semence royale de Dieu, qui garde les commandements de Dieu. Et nul d'entre vous qui ravage loin de l'Esprit de Dieu ne peut garder les commandements de Dieu, quand bien même vous auriez toutes les paroles des saints, car les saints rendent témoignage de la fin de la loi, et rend. Principe que Christ donne à tout homme une lumière qui sauve, nous le nions absolument. Réponse. Il est la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde, dit Jean, ministre de Dieu. Et il est le salut jusqu'aux extrémités de la terre, et ceux qui haïssent la lumière négligent leur salut, et changent la grâce de Dieu en dissolution, et renient le Seigneur qui les a rachetés. Et quiconque a entendu le Père et a appris de lui vient au Fils, et nul n'entend ni ne vient au Père s'il ne vient au Fils, nul, sinon ceux qui viennent à ce qui est transgressé en eux, et à la lumière dont tout homme venant dans le monde est éclairé, et ils n'entendent ni n'apprennent du Père, ni ne viennent au Fils autrement que par cela. Et la lumière qui éclaire quiconque vient dans le monde est le salut pour celui qui croit, et pour celui qui ne croit pas, elle est sa condamnation. Principe. Mais comment ces hommes osent-ils s'élever dans leur orgueil blasphémateur, en disant qu'ils sont purs comme Dieu? Réponse. Christ ne dit-il pas, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait » est-ce un blasphème? Et n'est-il pas dit, « Soyez saints, car je suis saint » est-ce un blasphème? De quels ministres êtes-vous? N'était-ce pas l'œuvre de Christ et des apôtres? Sans la sainteté vous ne verrez jamais Dieu, et comme il est, nous sommes aussi dans ce monde présent. Principe, la parole de Dieu est contenue dans les Écritures. Réponse, l'Écriture dit que Dieu est la parole, et que le ciel des cieux ne peut le contenir. N'êtes-vous pas plus semblables à des hommes dépourvus de raison qu'à des ministres, puisque votre ignorance des Écritures paraît ainsi? Elles, les Écritures disent que Dieu est la parole, et que l'Écriture est les paroles, et que Christ est la parole qui les accomplit. Principe. Les Écritures ont été données, certaines plus obscurément, d'autres plus clairement. Réponse. Pour ceux qui ont donné l'Écriture, et pour ceux qui sont dans ce en quoi elle s'achève, l'Écriture n'est pas obscure, mais ceux qui sont loin du principe de Dieu en eux-mêmes sont dans les ténèbres qui aveuglent leur esprit. Les Écritures n'ont pas été données obscurément, mais depuis la lumière, mais vous, qui êtes hors de la lumière, vous êtes obscurs. Principe. Les apôtres les ont ordonnés comme anciens par un appel indirect, et nous sommes clairement convaincus d'un appel indirect, non d'un appel explicite venant directement de Dieu à l'œuvre du ministère et de la parole. Les apôtres n'ont ordonné personne, à moins que le Saint-Esprit ne les instruisît spécifiquement de le faire. Pourtant, ces accusateurs furent supposément ordonnés par des hommes, dans le collège de leur secte ou leur hiérarchie ecclésiastique, qui n'avaient absolument aucune instruction du Saint-Esprit pour ordonner qui que ce soit. Les apôtres avaient la même mesure et la même maturité d'esprit que les premiers Quakers, qui sont aussi critiqués pour avoir atteint cela. C'est l'orgueil de l'homme charnel, enflé par sa connaissance des Écritures, de nier que quelqu'un d'autre puisse avoir une plus grande mesure de l'Esprit de Christ que lui-même. Et pourtant, c'est parce qu'ils ont commencé à enseigner avant d'être autorisés et formés par le Saint-Esprit qu'ils ne peuvent maintenant ni entendre la parole dans leur cœur, ni voir la lumière. Et ainsi ceux qui sont nés selon la chair ont persécuté ceux qui sont nés selon l'Esprit, comme cela a toujours été. Galates 4, 29, réponse. Ce qui faisait les officiers et surveillants dans l'Église parmi les saints, avant l'apostasie, c'était le Saint-Esprit, celui-là même par lequel de saints hommes ont prononcé l'Écriture. C'est cela qui les faisait surveillants, et ce n'était pas indirect mais direct, cet Esprit surveillait dans l'Église de Dieu. Nous croyons que vous, anciens, membres et ce qu'on appelle ministres, vous êtes tous indirects sans autorisation spécifique, ainsi que votre ordre et votre évangile sans révélation, comme il en est depuis les jours des apôtres. Vous êtes de ceux dont Christ a dit qu'il viendrait ravissant intérieurement loin de l'Esprit de Dieu, et ayant revêtu l'habit de brebis. Depuis les jours des apôtres, les gens ont marché après vous, et vous avez trompé le monde et les nations. Mais nous voyons que les faux ministres, les adorateurs de la bête de l'Antichrist et les séducteurs, parmi lesquels est le diable pour séduire, sont maintenant pris, avec le faux prophète, la bête et la mère des prostituées, et confondus et jetés dans l'étang de feu, et l'agneau et les saints auront la victoire. Et l'évangile est direct, et maudit est celui qui en prêche un autre, la parole, dis-je, est directe, elle vit, demeure et endure à jamais. Et les ministres qui sont dans l'esprit sont directs, et ceux-là sont pourvus des mystères de l'évangile, et leur appel est direct. Et les surveillants de l'Église que fait le Saint-Esprit sont directs, et tous ceux qui sont dans la vie, qui a donné l'Écriture, et nul ne connaît les Écritures sinon par elles sont directes, ce qui convainc de péché est direct. Mais maintenant, votre appel est indirect, votre ministère, vos surveillants, votre connaissance, votre parole, votre évangile, votre peuple et votre Église sont indirects. Nous croyons, vous tous, qu'il en est ainsi parmi vous depuis les jours de l'apostasie loin de la doctrine, de la puissance, de la vie et de l'esprit des apôtres, par lesquels vous êtes jugés. Vous qui êtes dans la vie dans laquelle ils étaient et qui a donné les Écritures, dont vous vous êtes écartés en ravissant, et vous n'êtes guère en état de parler d'avoir quoi que ce soit de direct venant de Dieu. Principe, l'Écriture est la parole et la règle. Il y a 41 000 opinions différentes sur le sens des Écritures. Comment pourraient-elles être la règle, autrement que pour régner dans le chaos, capitale de l'enfer? Mais le Saint-Esprit parle dans une langue clairement comprise, dans toutes les langues et tous les dialectes, avec des mots que l'auditeur comprend avec certitude, avec des visions de la vie de l'auditeur pour aider à la compréhension. Le Saint-Esprit accède au registre des expériences de la vie de chaque homme où chaque pensée, parole et acte est consigné et s'en sert pour illustrer ses enseignements. La lecture de l'Écriture ne remplace pas le fait d'être enseigné et gouverné par l'Esprit de Dieu, qui est la lumière, la parole et la grâce. Réponse. les Écritures sont les paroles de Dieu, et Christ est la parole en qui elles s'achèvent, et la parole de Dieu est la fin qui accomplit toutes les Écritures, qui vint aux prophètes que les apôtres prêchèrent, par laquelle ils discernèrent et prononcèrent les paroles, et virent l'accomplissement des paroles, et les Écritures de vérité ne peuvent être brisées, mais sont accomplies par Christ la parole. Et l'Esprit est la règle qui a donné les Écritures, et qui a conduit les saints dans toute la vérité. Principe. Thomas Castell alla nu dans les rues de Candale, et Thomas Holm de Kirby Stephen. Réponse. Cela a été une figure de votre nudité, vous qui êtes l'Égypte spirituelle, et elle ici au pied noir. Et vous avez dit que le prophète Ésaïe n'avait pas ôté tous ses vêtements, ce qui est contraire aux paroles du prophète dans l'Écriture. Il devait aller parmi tous les transgresseurs en Éthiopie et en Égypte, figure de leur nudité spirituelle. De même, depuis les jours des apôtres et l'apostasie, vous vous êtes éloignés de l'Esprit de Dieu, et en ravissant intérieurement loin de lui, vous avez manqué du vêtement de l'Esprit, vous n'avez eu que l'extérieur, l'habit de brebis, mais vous avez été nus de la vie. C'est pourquoi le Seigneur a poussé ses serviteurs à donner un signe véritable parmi vous, et non un mensonge, usant le vêtement de l'Esprit que vous n'avez pas, et vous serez témoins de la vérité du Seigneur Dieu dans ceci, si jamais vous venez au vrai vêtement de l'Esprit. Principe, vous dites que Christ ne voulait pas dire ce qu'il disait, quand il a dit « Ne vous faites pas appeler maître par les hommes ». Réponse, ce qui montre qu'ils ne sont aucunement ses ministres, eux qui foulent aux pieds ses commandements et enseignent aux gens qu'il est permis de les enfreindre, plaidant la légitimité d'être appelé maître par les hommes. Quant à être appelé maître par les hommes, à prier debout dans les synagogues, à leurs longues robes, salutations, dîmes et chairs, ce sont là les œuvres des parfaits pharisiens. Tout le monde peut regarder leurs fruits, leurs œuvres et leurs pratiques, et voir l'image même, et qu'ils ont leurs vêtements mêmes et leur place, selon leurs conditions, leurs fruits et leurs œuvres. Quant au reste de leurs paroles dures, mensonges, calomnies, mots avilissants et injurieux dont ils ont empoisonné les gens, ce sera leur propre fardeau, et cela retombera lourdement sur eux et reviendra sur leur propre tête. Leur voie est cernée, leurs bornes sont posées, leurs limites aussi, et en cela, au jour de leur compte, chacun sentira ses paroles comme son fardeau. Et leur patience eût été meilleure que de proférer leur folie et de la publier à la nation. Mais le jour est venu qui éprouve l'œuvre de tout homme, et un témoin se lève dans le peuple. L'astre du jour s'est levé, le matin a percé, le soleil se lève, afin que les gens ne prennent pas les mensonges pour refuge, qu'ils ne s'en nourrissent ni d'aucune chose, mais seulement de ce qui vient de Dieu, le pain vivant qui vient de Dieu d'en haut, celui qui en mange vit éternellement. Beaucoup ont leur pain et leur eau, qui n'ont plus faim ni soif. La pétition du Worcestershire au Parlement, qui est dite signée par 6000 personnes, principe. Il a fait une loi ordonnant à tous les gens à qui nous prêchons l'Évangile de nous accorder un entretien suffisant, afin que nous ne soyons pas empêchés de faire son œuvre ni dans son œuvre. Réponse. Les Écritures et les apôtres ne parlent aucunement d'une telle chose, comme si le Christ avait fait pour eux une loi commandant à tout le monde à qui il prêchait de leur accorder un entretien suffisant, afin qu'ils ne soient pas empêchés de faire leur œuvre ni dans leur œuvre. Quoi, un manque d'entretien les empêcherait-il s'ils ne l'ont pas? N'était-ce pas le commandement du Christ de donner gratuitement, comme ils avaient reçu gratuitement de lui, et ensuite, si l'on mettait devant eux quelque nourriture, ils pouvaient en manger? Mais si une loi commandant à tout le monde de donner un entretien suffisant, et une allocation aux apôtres et aux disciples avait existé d'abord, ils auraient pu être sûrs de leur entretien, et c'eût été de nature à encombrer l'esprit du peuple et à le mettre en trouble, tandis que l'Évangile était toujours une bonne nouvelle. Mais si les apôtres n'avaient pas prêché au monde, sans cette loi dont vous parlez, commandant à tout le monde de leur donner un entretien suffisant, dans quel état tous les gens se seraient-ils trouvés? Mais ceux qui avaient reçu gratuitement devaient donner gratuitement. Ainsi avez-vous manifesté vos esprits, comme étant des séducteurs du peuple pour de l'argent, en disant que 6000 personnes devraient dire qu'il a fait une loi commandant à tout le monde à qui il prêche l'Évangile de leur accorder un entretien suffisant. Lorsque le Christ a dit que les disciples devaient prêcher en allant, et qu'ils devaient prêcher même si on ne les recevait pas, et qu'ils devaient aller dans toutes les nations. Pourtant les apôtres ne plaidaient pas une loi là où ils venaient, selon laquelle tous devaient les entretenir, non, ils étaient souvent dans le jeûne, et n'usaient pas de leur pouvoir de manger chez beaucoup de gens, bien qu'ils eussent ce pouvoir, ils ne l'utilisaient pas. Et ainsi l'entretien n'empêcha pas les apôtres dans leur œuvre, car ils prêchaient souvent dans les jeûnes, et parfois leurs propres amis leur communiquaient quelque chose lorsqu'ils allaient et venaient parmi les païens, dans d'autres nations en prêchant. Les apôtres ne plaidaient pas une loi auprès des nations auxquelles ils prêchaient, et ainsi ils apportaient de bonnes nouvelles, gardant l'Évangile sans frais. N'avez-vous pas honte, vous 6000 hommes, de solliciter un entretien pour vos ministres, au point de publier dans une pétition votre nudité devant le pouvoir suprême d'une nation, à savoir que vous n'êtes pas capable d'entretenir votre ministère? que les églises ne sont pas capables d'entretenir leurs ministres, cela ne montre-t-il pas votre mendicité, et que vous êtes de la semence qui mendie du pain et par conséquent n'est pas juste, quand les Écritures disent « les justes ne sont pas abandonnés, ni leur semence mendiant du pain ». En cela, n'avez-vous pas fait honte à vos ministres, qu'il n'est pas de meilleure vigne, charrues et fléaux? Les apôtres, ou ceux qui les écoutaient, lorsqu'ils arrivaient dans une nation, ont-ils jamais présenté une pétition aux puissances de la terre pour de l'argent ou du soutien, principe? Et vous dites, là où un homme ne veut pas agir avec justice et payer à l'ouvrier le salaire qu'il lui doit, le magistrat doit faire rendre justice, sinon je ne sais pas à quoi il sert. L'homme plaide que, pour prêcher, on lui doit des gages, et qu'il appartient au gouvernement de faire respecter la perception de ces gages. Nulle part l'Écriture ne dit que celui qui prêche se voit dû des gages. Au contraire, l'Écriture condamne fortement quiconque prêche pour un salaire ou pour de l'argent comme étant cupide, et pour ceux qui le font, la noirceur des ténèbres est réservée pour toujours, réponse. Les apôtres, ambassadeurs et messagers du Seigneur Jésus-Christ, qui devaient aller dans toutes les nations prêcher l'Évangile, n'avaient pas de la part des magistrats une loi leur donnant des gages. Ils ne traînaient pas leur auditeur devant pour leur faire donner des gages, ni ne présentaient des requêtes à chaque autorité suprême de la nation devant laquelle ils venaient. Ce n'était pas là l'œuvre des apôtres, messagers et disciples, qui devaient aller dans toutes les nations prêcher l'Évangile. Lorsqu'ils avaient prêché l'Évangile à une nation, ils ne présentaient pas de pétition aux puissances suprêmes de la nation, aux puissances, principautés ou rois, pour obtenir de leurs auditeurs un entretien, comme vous le faites maintenant. Oh, cela empeste et montre que c'est hors de la puissance dans laquelle étaient les apôtres, disciples et messagers du Seigneur Jésus-Christ. Car ils auraient fait empester leur évangile, s'ils étaient venus dans toutes les nations prêcher l'évangile, puis, après l'avoir prêché, si leurs auditeurs ne leur avaient pas donné d'entretien, ils avaient présenté une pétition à l'autorité suprême de la nation et traîné leurs auditeurs devant les tribunaux, aux assises, aux sessions et aux bancs. Cela aurait-il été une bonne nouvelle pour les nations, ou un trouble pour les nations? Ils n'auraient été que des trompeurs et de faux porteurs de bonnes nouvelles, des fauteurs de troubles pour la nation, des chercheurs d'eux-mêmes et pour eux-mêmes. Et ce n'aurait pas été faire l'œuvre à laquelle le Seigneur Jésus-Christ les avait envoyés. Ils n'auraient pas été des prédicateurs de l'Évangile qui, vivent de l'Évangile, tels que ceux qui pourraient user de leur pouvoir et ne le font pas. Et la puissance de Dieu est la même maintenant que jamais elle ne l'a été, et elle éprouve tous les esprits sortis dans le monde, qui ont apostasié depuis les jours des apôtres, hors de la puissance des apôtres, et maintenant, par la puissance dans laquelle étaient les apôtres, sont compris ceux qui sont sortis de la puissance dans laquelle étaient les apôtres. Principe, et vous parlez de la tentation de Jonas, et pourtant de votre réconfort dans vos études, réponse. Vous êtes loin de la puissance dans laquelle était Jonas, aussi bien que loin de ceux qui doivent diviser correctement la parole, mais vous êtes engloutis dans les grandes tentations du monde, l'orgueil et la cupidité, dans lesquelles vous vous noyez, et vous êtes dans la dureté de cœur, dont les prisons de la nation rendent témoignage. Ceux qui ne peuvent vous donner d'entretien, et ceux que le Seigneur Dieu meut à venir vous parler, vous les jetez en prison, ce qui montre que vous êtes dans une autre puissance que celle de l'apôtre, qui disait « n'éteignez pas l'esprit » et que celle du prophète, qui disait « n'irritez pas le saint » et vous niez la prophétie. Ainsi maintenant votre puissance et votre autorité à l'égard de votre ministère avec l'esprit du Seigneur Dieu sont sondés, et l'on voit que vous êtes hors de l'esprit dans lequel étaient les apôtres, et que vous êtes des esprits sortis dans le monde, et dans la terre et la chute, et ainsi vous usurpez l'autorité, et usurpez le ministère en usurpant l'autorité, comme vous pouvez vous-même le voir. Lisez l'écriture des prophètes et des apôtres, et là lisez les fruits de votre ministère et de vos actions, éprouvez-les par l'écriture simple, principe. Vous dites que le ministère n'a pas pouvoir de vous mettre hors de la vigne, mais seulement de persuader d'autres de le faire, réponse. Les ministres sont-ils dans la vigne de Dieu? Et n'y ont-ils aucun pouvoir, aucune autorité dans la vigne? Les autorités civiles devraient-elles donc décider qui entre dans la vigne et qui doit en sortir? Tous ceux qui sont ouvriers dans la vigne doivent persuader qui est dans la vigne et qui en est dehors. N'y montrez-vous pas votre ignorance de la doctrine des apôtres et de leur œuvre, eux qui reprenaient, fermaient la bouche des opposants, avaient pouvoir de réduire au silence, pouvoir d'éprouver les esprits, pouvoir de juger, pouvoir de défendre. Maintenant n'avez-vous pas, en cela si vous êtes ministre, déshonoré votre pouvoir et votre autorité, et montré que vous êtes hors de la puissance, et que vous êtes de ceux qui crient aux montagnes, tombez sur nous, et cachez-nous de la glorieuse présence du Seigneur, qui se lève pour ébranler terriblement la terre. Principe ainsi, si l'entretien des ministres est retiré, il est peu probable qu'un ministère dure longtemps. Tout véritable ministre de Dieu ne prêcherait pas pour de l'argent et serait heureux de travailler pour vivre et de prêcher comme Dieu le pousse à le faire. les premiers ministres Quakers n'extorquaient pas d'argent du troupeau, au contraire, ils travaillaient pour leur nourriture, comme Paul qui faisait des tentes, et si quelqu'un leur offrait de l'argent et qu'ils n'en avaient pas besoin, ils le refusaient. Ci-dessous figure le récit du ministère de Wilcaton. Nous étions aussi à Cranbrook et à Staplehurst, où nous trouvâmes un peuple très ouvert, fort prêt à recevoir et à embrasser la vérité éternelle, que nous leur administrâmes librement et puissamment, selon la mesure que nous en avions reçue, dans la démonstration de l'Esprit éternel. Nous eûmes parmi eux plusieurs grandes et précieuses réunions, et la puissance et la présence du Seigneur Dieu furent beaucoup avec nous, ce dont nous nous réjouîmes ensemble, distribuant librement la parole de vie, qui, en ce temps-là, habitait richement et abondamment dans nos cœurs, et comme nous l'avions reçue gratuitement, ainsi la dispensâmes-nous gratuitement. Car bien qu'il y eût ceux qui auraient voulu nous donner de l'or et de l'argent, que certains même auraient voulu nous imposer, nous n'eûmes pourtant pas la liberté d'en recevoir un seul peigne, car nous leur dîmes que ce n'était pas leur bien, mais eux que nous cherchions. Beaucoup furent convaincus et vivement touchés par la vérité, qu'avec joie et allégresse ils reçurent. Venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, et celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, oui, venez acheter du vin et du lait sans argent et sans prix. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain, et votre argent durement gagné pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi attentivement, et mangez ce qui est bon, et que votre âme se délecte dans l'abondance. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez et obéissez, et votre âme vivra, et je traiterai avec vous une alliance éternelle, les grâces fidèles promises à David. Ésaïe 55:1-3 réponse. Il semble que l'entretien, la dîme imposée par le gouvernement selon des districts géographiques soit ce qui les a poussés à prêcher et les a soutenus. Ôtez-leur donc leur entretien, et leur ministère s'écroule. Mais moi je dis que la vraie puissance subsistera, ainsi que l'administration de l'Esprit, l'écoute du Christ et l'enseignement de Dieu, même si des hommes leur ôtent tout entretien et les jettent en prison pour avoir parlé. Mais ce soutien des ministres par l'entretien est ce qui s'est élevé avant la mort des apôtres, parmi ceux qui enseignaient pour un gain honteux, et qui par cupidité faisaient commerce du peuple. Par l'amour de l'argent ils se sont égarés loin de la foi, et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de désirs nuisibles. Ils admiraient les personnes à cause de l'avantage, et enseignaient pour des dons et des récompenses. Cela s'était élevé avant la mort des apôtres. Or ces docteurs qui admiraient les personnes, enseignaient pour un gain honteux, par amour de l'argent et par cupidité, l'apôtre les voyait avant son décès, et depuis lors le monde a couru après eux. Ôtez-leur leur argent, leur lucre et leurs dons, et voyez combien de temps ils prêcheront. Maintenant vous avez montré votre racine, votre rejeton est découvert. Or les apôtres prêchaient, et étaient des ministres qui tenaient ferme, qui jugeaient la racine d'où vous avez jailli, car votre racine s'était élevée avant la mort des apôtres. Mais maintenant vous criez que si l'entretien est ôté, il n'y a guère de chance que le ministère tienne longtemps. Nous sommes d'accord avec vous aussi, car nous savons que si votre entretien vous est ôté, le prédicateur s'écroule. C'est pourquoi par des pétitions, vous importunez les tribunaux et les magistrats pour votre subsistance. Mais si vous étiez de vrais ministres, vous seriez à l'œuvre dans la vigne de Dieu, et vous auriez honte de telles choses, et par la puissance de Dieu vous couvririez votre nudité, et vous ne seriez pas des mendiants, ni ne pétitionneriez pour des choses extérieures. Vous déshonorez la puissance du Seigneur Dieu et faites blasphémer son nom parmi les païens. Et ainsi honte à vous, que vos bouches soient fermées à jamais pour avoir dit que vous êtes des ministres. La puissance ouvrirait le cœur des gens si vous étiez en elle, et les pousserait à vous donner, de sorte qu'il n'y aurait point de manque, alors l'Évangile serait prêché et vous vivriez de cela, et la bonne nouvelle serait connue de toutes les nations, et les hommes ne seraient pas embarrassés par les tribunaux, ni jetés en prison par vous, vous qui ne faites aucun travail pour eux. Principe. Vous dites, les hommes auront-ils la liberté de prêcher en invectivant contre les ministres et l'Église du Christ? C'est un opprobre pour le monde. Et Gilles Calvert a-t-il reconnu son nom chez eux? Et vous parlez de votre liberté de la chair, mais que la chair ne doit pas être l'oracle de Satan, comme les boutiques de Posicaes tiennent du poison à disposition, ainsi Gilles Calvert fait du poison pour les âmes. Réponse. Ce n'est pas en invectivant qu'on arrête le poison, mais vos chairs ont été comme des boutiques de poison, au point d'empoisonner les nations, car n'avez-vous pas empoisonné beaucoup de gens et rendu leur esprit envieux? Et la plupart de votre marchandise a été de l'invective les uns contre les autres. Mais si vous aviez été ministre, ou si vous aviez dit la vérité dans l'amour de la vérité, cela aurait gardé les gens dans la paix et l'unité, et vous ne vous seriez pas cherché vous-même. Et la boutique de Gilles Calvert, que vous appelez une apothecary, a été un lieu où beaucoup de vos actions et de vos fruits ont été découverts et rendus manifestes, non contre l'Église de Dieu, non contre les ministres de Dieu et du Christ, non contre les magistrats qui vivent dans la crainte, la vie et la puissance de Dieu, mais contre l'injustice et la persécution, et contre les apostats survenus depuis les jours des apôtres, comme vous l'avouez, si votre entretien est ôté, le ministère tombera. Or c'est la puissance qui amène les gens à subvenir aux besoins de ceux qui les servent, non par contrainte, mais librement, et cela est acceptable et agréable à Dieu, ce que le Seigneur aime. Ainsi tout votre poison de chair, comme des oracles de Satan, a été comme cela, car les gens de chair ministres qui prêchent depuis des chairs, la meilleure place sont ceux qui ont causé la grande persécution et l'emprisonnement de ceux qui leur parlent, et parce qu'ils ne leur donnent pas d'entretien, et ainsi vous éteignez l'esprit, et ce qui éteint l'esprit n'est pas de Dieu, car dans la vraie église tous peuvent prophétiser l'un après l'autre, et si quelque chose est révélé à celui qui est assis, l'autre doit se taire, afin que tous apprennent et soient consolés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, et c'était là l'ordre dans les églises de Dieu, avant la mort des apôtres. Mais depuis leur mort, parmi vous qui avez apostasié d'eux, ceci est désordre et vous met tous en tumulte et en confusion. Ainsi votre église et votre chair ressemblent davantage à l'oracle de Satan qu'à l'église de Dieu, et vous avez été dans vos chairs plus semblables aux crêles de femmes à celles qui sont dans une chaise de plongeon, dont vous parlez, qu'à des hommes qui prêchent l'évangile, comme les paroisses peuvent témoigner du fardeau qu'elles ont eu de vos invectives contre d'autres gens qui n'étaient pas présents avec vous. Et lorsque certains d'entre eux sont venus à vous, vous avez crié « Emmenez-les, ils vous dérangent ». N'est-ce pas pire que les crêles de femmes, car les femmes se tiennent et se crêlent face à face, mais vous, vous crêlez dans leur dos, et ne pouvez souffrir de leur parler en face, mais vous criez, en prison avec eux. Mais la verge est passée sur vous, et vous en êtes venus à dépendre du fléau, du fouet et du coup de lanière, pour vos mauvaises paroles, qui ont corrompu vos mœurs. Quand vous auriez dû prêcher la voie pacifique vers le royaume de Dieu, vous avez amené les gens à la dispute, les jetant en prison pour vous avoir dit un mot, et aussi ceux qui ne peuvent vous donner d'entretien, pour qui vous ne faites aucun travail. Mais la sentence prononcée dans Matthieu vient sur vous, vous jetez en prison jusqu'à la mort parce qu'ils ne peuvent vous donner d'entretien, c'est pourquoi vous êtes fort loin de visiter ceux qui sont en prison, et ces couvertures ne vous couvriront pas. Toutes vos paroles dures que vous avez vomies dans votre livre ne valent pas la peine d'être mentionnées, mais elles retomberont sur vous-même, car chacune de vos paroles sera votre fardeau. Or des insensés peuvent apposer leur signature à des choses qu'ils ne connaissent pas et suivre la foule pour faire le mal, mais les hommes sages considèrent et méditent les choses d'avance. Ainsi toutes vos pétitions, lisez les saintes écritures des prophètes, du Christ et des apôtres, et éprouvez-les, pour voir si vous avez jamais un exemple parmi les ministres de l'Évangile qui ait jamais présenté une pétition à quelque autorité suprême d'une nation, ou si le Christ leur a jamais donné un tel commandement, que ses disciples aillent mendier par une pétition, auprès des puissances suprêmes de la nation, un entretien. En cela, n'avez-vous pas déshonoré l'Évangile et le christianisme, et montré que vous n'êtes pas du sacerdoce royal, ni de la semence royale, ni de l'Alliance éternelle, et que vous n'êtes pas des ministres comme ceux qui donnent librement, ayant reçu librement, mais plutôt de ceux dont l'esprit est dans la terre, et que vous, pétitionnaires, n'êtes pas capables de les entretenir. Tous les magistrats qui se tiennent dans la crainte du Seigneur Dieu jugeront cela, et verront ainsi que vous vous êtes couverts de honte, vous, votre ministère et votre Église, et que vous n'êtes pas une vigne, que vous n'avez pas un troupeau pour vous donner du lait, qu'il devrait vous donner de plein gré, et ainsi les magistrats doivent donner du lait à vos ministres. Vous avez montré la paresse de ceux qui ont labouré et ne sont pas devenus participants de leur espérance, mais l'ont perdu. En vain ont-ils labouré et battu, et n'ont pas tiré le grain. En tout cela, n'avez-vous pas montré votre oisiveté, que vous n'avez pas travaillé à obtenir une vigne, ni battu et sorti le grain, et que vous n'avez pas labouré et semé la semence? Les magistrats ne verront-ils pas cela chez vous? Ne vous ont-ils pas fait tort en entretenant votre oisiveté? Les magistrats ne verront-ils pas qu'ils l'ont fait, et ne seront plus des chevaux de bât, ni des exécuteurs pour vous, vous qui avez exécuté votre malice sur ceux pour qui vous ne faites aucun travail, qui ne vous ont pas engagé, et que vous avez jeté en prison parce qu'ils vous ont parlé afin que vous vous repentiez et que vous craigniez Dieu? Il est donc temps que les magistrats rendent justice et fassent exécuter la loi contre vous, vagabonds oisifs. William Thomas, ministre de l'Évangile à Hublet ainsi nommé, dans son livre intitulé « Railing Rebuked, or a defense of the ministry, l'invective réprimandée ou une défense des ministres », ses principes suivent, principes. Il dit « Son épître fait des réflexions sur deux sortes de personnes et que beaucoup de faux prophètes se sont levés », réponse. L'œuvre des ministres de l'Évangile n'était pas de faire des réflexions sur des personnes, ni de frapper des créatures, comme vous dites, deux sortes de personnes, mais il frappait la puissance qui tenait la créature captive, afin que la créature vînt à la liberté des fils de Dieu. Ainsi vous qui faites des réflexions sur des personnes, cela montre une marque de votre condition de faux prophète, au lieu de parler de la puissance, vous faites des réflexions sur des personnes. Et ces réflexions sur des personnes n'ont jamais été le moyen d'engendrer à Dieu, Mais ce qui frappe la puissance qui captive les créatures atteint le témoignage en prison et amène les gens à l'unité avec Dieu et les uns avec les autres dans l'esprit, qui est le lien de la paix. Principe aimer la parole pour ses bonnes parties à l'égard du chrétien est une chose dangereuse et à l'égard de la parole de Dieu, une chose déshonorante. Réponse. Là où les bonnes parties ne sont pas dans le chrétien, c'est une chose déshonorante pour la parole, et cela fait que l'on parle mal de la parole de Dieu, comme l'a fait toute votre assemblée de ministres par vos mauvaises conduites, vos esprits terrestres, cupides, impatients, qui ne peuvent supporter que quelqu'un parle autrement que vous, à vos places. Ainsi par vous, la parole de Dieu a été déshonorée, et non honorée, car les apôtres écrivaient qu'ils devaient se montrer comme des modèles et des exemples pour le troupeau de Dieu en vie et en conduite, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Or là où la parole est mal parlée, et où les mauvaises parties procèdent d'un chrétien, cela afflige les justes et fait que l'on parle mal de la vérité, et la parole fait de des vases d'honneur en qui elle est. Principe. Maintenant, quand les chrétiens abandonnent la parole, et les sacrements, et les sabbats, c'est un orgueil dangereux, en élevant la lumière intérieure comme ils le font. Réponse. Les chrétiens qui niaient les sabbats, et qui témoignaient de Christ la substance, le repos, disaient « La lumière qui a brillé dans leur cœur leur donnerait la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Jésus-Christ. » Ils élevaient Christ la lumière, et ils marchaient en lui, l'alliance de Dieu et de lumière, pour les juifs et les gentils. Ceux qui y marchent sont en paix avec Dieu et en unité les uns avec les autres, et ont la lumière de la vie et le repos, et tous ceux qui en sont hors sont dans un état dangereux. Quant au mot « sacrement », il n'y a aucune écriture pour lui, c'est l'un des mots communs inventés des papistes, et la lumière en détourne, tout comme du sabbat juif. Principe. Achetez la vérité, et ne la vendez pas, et ne plaidez pas pour la suffisance d'une lumière commune. Et, quittant leur métier comme les moines, et leurs livres volant au loin, les ailes non coupées, et aucune mention du salut éternel de la colère à venir, et il dit, il aime la parole, les sacrements, les sabbats et le ministère. Réponse. Le Christ est venu mettre fin au sabbat juif, et les apôtres prêchèrent leur fin, et laissèrent tout pour le Christ, ainsi, injurier ceux qui sont dans la même puissance et l'appeler par l'expression insipid, monacale, c'est vous et vous qui y ressemblez davantage, vous qui parlez de sacrements venant de la sainteté monacale. Quant à parler de couper les ailes de nos livres qui volent au loin, c'est une autre expression insipid, et elle montre votre esprit, qu'il n'est pas capable de résister à l'esprit qui produit les livres. Quant à la parole et au ministère, vous vous êtes montré contre eux, bien que vous professiez que l'Écriture est la parole. Mais ce sont là les paroles de Dieu, que Christ la parole a accomplies, et cela les ministres du Christ en rendent témoignage. Vous ne lisez jamais que les ministres de l'Évangile aient dit qu'ils aimaient les sabbats juifs et les soutenaient. Ceux-ci étaient les ministres de la loi qui soutenaient les sabbats, auxquels Christ, le repos, est venu mettre fin, lui par qui le monde a été fait, qui était avant qu'il fût fait, glorifié avec le Père avant que le monde fût. Et vous vendez la vérité et prenez le monde, vous qui niez la lumière qui éclaire tout homme venant au monde, qui est suffisante pour celui qui y croit. Principe. Nous exerçons et ordonnons notre prédication pour obtenir de l'argent et un entretien, et les salutations sur les marchés ne sont que ce que l'humanité requiert, et ne pas être appelé rabbi par les hommes, autrement Christ ne l'aurait pas pris. Un ministre doit-il perdre à la fois les membres de son église et l'entretien de sa place? L'homme admet qu'il prêche pour obtenir de l'argent. Or un vrai prédicateur prêche par amour pour son prochain et par amour pour Dieu, et sa prédication est ordonnée par Dieu et dirigée par Dieu. Cet homme accomplit les paroles du Christ concernant les mercenaires. Le mercenaire travaillant pour un salaire ne possède pas les brebis comme le berger. Aussi, quand il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Alors le loup attaque les brebis et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire travaillant pour une paix et qu'il n'aime pas les brebis. Jean 10, 12, 13 réponse. Le Christ dit à ses disciples qu'il reconnaîtrait les faux prophètes à leurs fruits. Et il dit, « Ne vous faites pas appeler maître par les hommes, car un seul est votre maître, le Christ, et il interdit les salutations des pharisiens sur les marchés, que vous appelez un droit humain. » Les apôtres n'ordonnaient pas leur prédication afin d'en tirer de l'argent, mais ils s'efforçaient de garder l'Évangile sans frais, et les ministres du Christ détournèrent le peuple des assemblées des Juifs, et de leur entretien aussi. Vous qui êtes trouvés hors de la doctrine des apôtres, dans l'apostasie, ceux qui vous quittent, pour qui vous ne faites aucun travail, comment pouvez-vous attendre qu'ils vous donnent un entretien? Ou comment pouvez-vous, en justice, prendre un entretien de ceux pour qui vous ne faites aucun travail? Ainsi, si vous perdez les membres, prendrez-vous l'entretien? Quel apôtre a fait de même? Non, refusez l'entretien, n'est-ce pas le moyen de gagner des membres? N'est-ce pas le moyen par lequel la puissance de Dieu peut être connue? qui relève la semence de Dieu, par lequel les cœurs des gens peuvent être ouverts et par lequel la semence est connue. Et l'apôtre s'est déclaré contre ceux qui enseignaient pour un gain honteux et faisaient commerce de la parole, et ce que vous appelez l'humanité est votre droit terrestre, puisque votre conduite est dans la terre et non dans le ciel. Fox ignore l'affirmation la plus ridicule de cet accusateur, qui a dit « Être salué sur la place du marché et être appelé rabbi est ce que l'humanité requiert, autrement Christ n'aurait pas eu ce titre. » Jésus a dit « Ne vous faites pas appeler rabbi maître, car vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères. » Matt 23, 7-8. La raison pour laquelle Jésus s'est laissé appeler rabbi, c'est parce qu'il est ce seul et unique maître qui mérite le titre. La logique que cet accusateur utilise pourrait tout aussi bien servir à se justifier d'être appelé sauveur ou saint d'Israël. Continuez. Vers les réfutations suivantes, le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, laquelle conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.